Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur Radio Campus Lille le dimanche de 11h à midi. Aujourd'hui nous allons parler sport moto avec Gilles Fagnin. Gilles, bonjour.
Oui, bonjour, et plus particulièrement de Superbike, puisqu'on a appris une nouvelle comme un coup de théâtre. C'est le départ à la retraite de grand Max, de Massimiliano Biaggi, dont on va parler. Surtout un retour sur sa carrière, mais aussi surtout sur sa vie et un petit peu son enfance, un peu un hommage à quand même quelqu'un qui a été un grand pilote au cours de 20 années qui viennent de s'écouler.
Alors finalement, on dit que Max Biaggi, finalement, c'est Valentino Rossi qui l'a fait, en fait. Heureusement qu'il avait Valentino Rossi, parce que à l'époque où il était en MotoGP, en fait, il était toujours deuxième. C'était le poulidor un peu des Grands Prix.
Alors on verra que Massimiliano était là bien avant et qu'il a été titré bien avant et qu'il a été aussi un énorme champion adulé par des millions de tifosi. Et puis après, effectivement, il a subi un peu la loi aussi, mais il est revenu au top niveau grâce au Superbike, effectivement.
Très bien. Au sommaire de cette émission, nous parlerons également en deuxième partie de la réforme du permis moto qui rentrera en vigueur le 19 janvier prochain avec Dominique et Catherine Picavé de la moto-école Dominique Azur.
Forgive me for what I've done. I'll
Le magazine de la moto, c'est le dimanche sur Campus 106,6 avec Gilles Fagnan. Aujourd'hui, Gilles, on va parler forcément de la carrière de ce fameux pilote Max Biaggi qui a raccroché le cuir. Bah quoi, la semaine dernière hein.
Et bah, il y a 10 jours. Le 7 novembre, hein, une dépêche de l'AFP est tombée. L'italien Max Biaggi, surnommé l'empereur romain en raison de son ego prononcé et d'une attitude qui frisait parfois la suffisance, a décidé de prendre sa retraite sportive après avoir fait rebondir une carrière longtemps contrariée en catégorie reine par son compatriote Valentino Rossi. On verra donc de quelle manière. Tout à l'heure, je ferai un petit peu un flashback sur tout le parcours. Et il dit, je prends ma retraite en champion au sommet de ma carrière. Effectivement, il vient de remporter le titre Superbike hein, avec Aprilia.
C'est pas le premier, hein. Alors, ça fait deux fois qu'il gagne.
Oui, c'était son deuxième titre,
deuxième
évidemment.
Titre, hein.
Mais ça, je reviendrai sur la carrière.
D'accord.
donc, il a lancé ça sur le circuit de Vallelunga, près de Rome, où il a fait ses premiers tours de roue à 17 ans, alors que logiquement, il était promis à une carrière de footballeur.
Ah bon?
Bah oui.
Bah, tu nous apprends des choses.
Et oui, et donc, c'était le premier Italien champion du monde en Superbike en 2010 sur Aprilia. Donc voilà, j'y viens. Et il a réédité ce succès là maintenant en 2012 et devant de nombreux jeunes forcément dans l'ongle hein, que cet homme de petite taille puisque Max Biaggi c'est quand même 1m70, 60 kilos.
En fait, en gros les pilotes moto ils sont pas très grands. Hein.
Voilà, donc lui surtout. Et puis bon voilà et puis il fêtait c'est quand même il avait célébré ses 41 ans au mois de juin quand même hein, c'est quand même énorme.
Il aurait pu encore continuer 2-3 ans.
Enfin 20 ans de carrière de l'Amiche 92
italien qui a été jusque 48 ans là qui est sur Suzuki dis-moi là non ça dit rien bon non c'est pas grave.
C'était son sixième sacre, effectivement, hein, parce que Max avait déjà 4 titres, 2,5 de 94 à 97. Et puis, c'est un pilote qui force le respect parce que il est sorti par la petite porte des championnats du monde de vitesse, où il, après s'être heurté quelques fois, même physiquement, à Valentino Rossi, qui, contrairement à lui, a volé de succès en succès dans toutes les catégories, 125, 2,5, 500 et MotoGP. Alors, fort de ses résultats en 2,5, il est doté d'un pilotage un peu facile, simple et surtout coulé, hein, que beaucoup apprécient visuellement. C'est quand même un pilote très propre, très Mad Max, entre guillemets, un autre de ses surnoms, avait confirmé tout son potentiel lors de son passage sur les fougueuses 500 de temps en 98. Alors, effectivement, à l'issue du premier Grand Prix de la saison au Japon, il gagne la course. Sur cette nouvelle monture, rejoignant ainsi le club extrêmement fermé, puisque formé des seuls Geoff Duke et Jarno Saarinen, a signé un succès lors de leur première course en 500 cm3. Les puristes vérifieront l'information. Deuxième du classement final derrière l'Australien Mike Doohan, qui alignera 5 titres mondiaux consécutifs dans cette catégorie, du jamais vu depuis l'époque du Campionissimo, Giacomo Agostini, s'il vous plaît. Biaggi laissera le guidon de sa Honda privée pour disposer dès l'année suivante d'une Yamaha d'usine, marque qu'il représentera jusqu'à fin 2002. Dans cet intervalle, Rossi, quant à lui, titré en 125 et 2,5, avait également fait une apparition remarquée en 500 en 2000 sur la Honda d'une écurie satellite. En fin de saison, le prodige de Tavulia, petite localité proche de l'Adriatique, terminait en deuxième position entre le nouveau champion du monde, Kenny Roberts Jr. et un certain Max Biaggi. Déjà, ils étaient déjà en rivalité, en 2000. Alors, vice-champion du monde à deux reprises, en 2001 et 2002, derrière Valentino, Biaggi voyait sa brillante carrière marquer le pas. Effectivement, possédant deux caractères nettement opposés, Biaggi peu disert et Rossi très extraverti, les deux plus talentueux pilotes du plateau étaient considérés comme les meilleurs ennemis du monde. Ce qu'ils allaient prouver sur la piste, comme lors du Grand Prix du Japon en 2001. Sur le dangereux circuit de Suzuka, Biaggi avait donné un coup d'épaule à son rival en pleine vitesse dans la ligne droite.
Ah ouais.
Alors là, des stands, et Rossi avait répliqué par un doigt d'honneur à l'adresse du Romain.
Ah, je me souviens encore.
Ses comportements,
ça n'avait pas plu au directeur de course. Hein.
Ah voilà. Alors ses comportements leur avaient valu une réprimande de la part de la direction de course, avertissement renouvelé quelques mois plus tard en Catalogne par les autorités et même leur chef d'écurie après une altercation entre les deux hommes dans l'escalier qui menait au podium.
Ah bon.
Et que vous n'avez pas vu, c'était hors caméra. Ouais.
Alors sur, des poids plumes aussi, hein.
Sur le podium final justement, troisième en 2003 et en 2004 sur une Honda privée après avoir été licencié par Yamaha, Biaggi finissait cinquième en 2005 sur la Honda officielle qu'il a réclamé à corps et à cri pour rivaliser avec Rossi. Alors une année blanche en 2006 et un nouveau départ en Superbike en 2007 lui permettait de reprendre la bonne trajectoire alors que celle de Valentino Rossi commençait à donner des inquiétudes. Alors, il est marié, on termine juste avec ça, marié à Eleonora, qui était Miss Italie en 2002. et père d'Inès et de Léon Alexandre, le pirate, entre guillemets, comme l'appellent ses amis, prodiguera dorénavant ses conseils à Prilia, qui l'a fait tant gagner. Et effectivement, on reviendra sur toutes ses victoires après un morceau de musique.
Spécial Superbac aujourd'hui avec un spécial Max Biaggi, avec un spécial Gilles Fagnin.
Ouais, en fait, spécial Massimiliano Biaggi, qui est son vrai prénom. Ouais, enfin. Et revenir un petit peu sur sa vie. En fait, c'est un petit garçon bourré d'énergie, un petit enfant blond. Et ce petit enfant blond est très différent en fait des autres enfants. C'est quelqu'un qui est bourré d'énergie, capable de se reposer que 4 heures par nuit. Non pas parce qu'il est nerveux, stressé, mais parce qu'il aime bien voir tout ce qui l'entoure. Il est curieux de tout. Alors il est déterminé et scrupuleux. Alors, son père dit de lui que depuis qu'il était petit enfant, il était très différent de sa sœur Vanessa, 2 ans de plus. Comme les enfants, ils ont utilisé pour partager, ils partageaient la même chambre tous les deux, en fait, le frère et la sœur, parce que Massimiliano, c'est quand même pas des gens chez les Biaggi, on n'est pas riches à la base. Et donc, il disait, bon, la pièce a semblé divisée par un fil invisible. Il y avait d'un côté le côté de Max, la propreté la plus impeccable régnait. Et du côté de Vanessa, c'était le chaos.
C'est le bordel.
Donc c'était quelqu'un de très très organisé, etc. Alors, puis la famille a toujours été très importante pour Max. Hein. Son père, en fait, était à la base était entraîneur de football. Donc c'est naturellement que Massimiliano faisait du football et a commencé à jouer dans le club de Triomphal. Alors ça s'appelle Triomphal Doria, hein, l'équipe de football du quartier. Pendant l'hiver, il participait à des compétitions de ski. Enfin, il était extrêmement sportif. Il a toujours aimé le sport. Alors sur le ski, il s'est lancé. Son père disait, il s'est lancé comme un boulet de canon. Il n'avait jamais peur de rien, pas peur de la vitesse, etc. Rien ne lui faisait peur. Et en fait, il était bon, le football, ça catalysait sa passion sportive, dit son père. Son père dit ça de lui. Et puis c'était comme une tradition familiale, ça s'inscrivait dans le truc et tout. Et puis, par contre, lui, Massimiliano, avait une passion pour les moteurs. Alors, une passion pour les moteurs qui est née un jour où il n'avait que 6 ans. Et il a piqué les clés de la bagnole de son père. Et a réussi à la mettre en route et il a défoncé la fontaine familiale. Donc il a sauté sur la voiture, elle était garée près d'une fontaine et il a complètement détruit la voiture et la fontaine. Alors son père n'avait jamais pensé lui qui était capable à 6 ans de démarrer une voiture et de partir avec. C'est un truc de fou quoi. Donc Pietro, son père dit que c'est avec ces prémices là que quelque part sa passion des moteurs elle a vu le jour. Alors la jeunesse de Max était comme toute celui des personnes de son âge, hein, le groupe, le vélo à moteur, les parties et bien sûr le football. Et puis il avait un ami qui s'appelait Daniel. Et qu'il aimait beaucoup, et lui, Daniel était passionné de moto. Alors, Max allait, lui, sur sa carrière de football, et puis un jour, son ami l'emmène à Vallelunga, et lui dit, viens voir, je roule en moto sur un circuit et tout. Donc il l'accompagne, et puis, il y a eu le déclic. Il y a eu le déclic, et il a voulu faire de la moto. Alors, comme son père n'était pas riche, il n'avait pas d'argent pour lui acheter la combarde, hein, puis le casque, qui était obligatoire quand même. Du coup, Max... il a travaillé. En fait, Max, il a voulu montrer à son père qu'il était capable de bosser. Donc, il avait marre de regarder son copain tourner. Donc, il a fait la livraison de colis, en fait. Il a fait de la livraison de colis. Et puis, 5 semaines, donc en tant que, entre guillemets, Pony Express, hein, 10 heures par jour, 5 semaines dans le trafic romain, il s'est lancé. Et puis, pour montrer à son père tellement c'était important pour lui... d'avoir le nécessaire pour faire de la moto. Et puis finalement son père a cédé et puis il a accepté qu'il démarre la moto. Alors il a démarré, son père avait l'habitude d'acheter de la licence piste et puis de rester sur la moto. Et puis après Max roulait avec elle et donc il a commencé. L'étape suivante, il a voulu faire des compétitions. Donc son père travaillait comme mécanicien à l'époque. Et donc du coup, l'osmose s'est faite et son père a commencé à le suivre quelques compétitions, notamment dans le championnat de sport production italien en 125 avec une Honda. Et puis je vous raconterai la suite après ça.
My way.
Spécial Superbike et spécial Max Biaggi hein, qui raccroche le cuir après plusieurs titres de champion du monde. En 89, après sa première compète, que se passe-t-il, Gilles ?
Eh bien, 90 a été l'année totalement différente puisque Maurizio Vitali, un vrai mécanicien venu de Rome, a contacté son père, Pietro, et puis a finalement pris... c'est un mécano qui était devenu le mécano de Gary McCoy par la suite en 125, qui était chef mécanicien. Et donc, il a pris la place sur la piste en tant que technicien. Et puis, alors on se moquait d'eux parce qu'il disait bon, ils nous appellent ceux de la Fiat Uno avec la remorque.
Ah bon.
Alors, parce que tous les autres pilotes du plateau avaient des camping-cars, des camionnettes, etc. Puis eux, ils étaient avec une Fiat Uno, avec une remorque, enfin un peu.
Tu commences toujours comme ça. Quoi,
voilà. Tous les autres se moquaient un peu de lui, et puis finalement cette année-là, il a remporté 6 courses sur 7. Et après, plus personne ne se moquait de lui. Donc ça a été vraiment l'année terrible. En 91, il a remporté le titre européen en 250 au premier essai. Ce qui est aussi exceptionnel. Il a fait cette course avec le team Italia. Maintenant, il fallait qu'il s'attaque au championnat du monde. Donc, en 92, après une course comme Joker en France, puisque, il y avait dû remplacer l'année précédente un des pilotes en Aprilia dans l'équipe Valaisie, il s'est retrouvé avec un coéquipier qui s'appelait... Pier Francesco Chili, qui est quand même un célèbre pilote, donc qui était chez Aprilia également, donc qui était devenu son coéquipier. Alors Max est arrivé avec un casque rose, criard, fuchsia, donc encore une fois un peu larisé. Et puis finalement, il a remporté son premier Grand Prix d'Afrique du Sud dans la dernière course du championnat. Et puis ça a été quand même un peu musclé, puisque il a aussi à un moment donné un petit peu mis un coup d'épaule à son coéquipier.
C'est un violent en fait, non ?
Il n'avait pas trop de scrupules en fait.
Il aime pas trop se faire doubler.
Il voulait surtout gagner. Ouais. Alors il dit j'ai dû apprendre l'anglais en fait, parce que quand j'arrivais dans ils appellent ça la grande comprenait la grande compétition, les GP. C'était un monde nouveau. J'ai dû apprendre l'anglais au début quand les journalistes me parlaient. Je comprenais rien, donc c'est pour ça. C'était quelqu'un d'assez réservé, d'un peu timide, et beaucoup d'énergie, mais très timide. Et c'est pour ça qu'on a traduit de lui qui était un peu hautain, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un d'assez sensible. Alors il a enchaîné les résultats. Donc on est en 92, 93, il a continué. Et puis ensuite, en 94, il a commencé à aligner des victoires. Alors là, on comprenait pas. C'était un animal de course. Avec Aprilia et Aprilia chez Team Chesterfield, et 94, 95, 96, 97, 4 titres de champion du monde d'affilée. C'est quelque chose d'exceptionnel. 4 titres de champion en 250 cm3, évidemment, pas en catégorie reine. Quand il a voulu partir en catégorie reine, il n'a jamais eu les résultats escomptés.
Son compatriote lui a fait de l'ombre. Là.
Il s'est heurté à Valentino Rossi. Mais il dit il y a eu pas mal d'accidents, etc. Il est passé de chez Honda, chez Yamaha. Donc en 2003, il revient sur une Honda avec l'équipe Ponce Pramac Camel. À l'époque, on avait encore le droit aux cigarettes dans la moto. Et puis malgré quelques victoires en 2003 et une en 2004, il avait une Honda non officielle et il n'arrivait pas à faire de résultats. Et enfin, quand en 2005, Repsol lui confie une machine de pointe, il ne finit que cinquième. Il avait eu en début de saison en fait une grave blessure à la cheville en supermotard. Et donc il n'a jamais pu vraiment s'en remettre. C'est le Superbike ensuite qui lui donne sa chance avec les succès qu'on connaît.
Le magazine de la moto, c'est sur Campus, c'est le dimanche de 11h à midi, aujourd'hui avec...
Une spéciale.
Spéciale Gilles Fagnin sur Max Biaggi.
Spéciale Biaggi par Gilles Fagnin. Non mais finalement, au final, Max Biaggi, si on veut faire un peu le récapitulatif de sa carrière, c'est quand même en 2,5, 29 victoires, 13 victoires en 500. Et 16 victoires en Superbike, c'est quand même pas rien. 20 ans de carrière, il part de fort belle manière, mais je pense que ça va changer un peu la face du Superbike, parce qu'il a été un animateur formidable cette année qui était une année aussi extrêmement pluvieuse, où jusqu'au dernier round, il a glissé.
Il faut dire que cette année, il a gagné d'un demi-point,
hein, ça s'était jamais fait. Il a fait un truc.
Champion du monde Superbike d'un demi-point.
Et voilà. Et en fait, en cause des raisons climatiques, et justement, la FIM vient de se réunir par rapport à ça, puisque pas mal de pilotes disaient, quand il pleut, faut arrêter les courses. Et bien non, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle procédure qui a été arrêtée pour l'année prochaine. Donc, une course de Superbike ne sera pas interrompue pour des raisons climatiques, sauf pour événements extraordinaires. Et les coureurs qui souhaitent changer de pneus ou faire des réglages doivent entrer dans les stands à tout moment, entre parenthèses, et le faire pendant la course réelle.
Donc ça, il faut expliquer, parce que les années précédentes, en fait, il fallait arrêter la course pour faire le changement, le leader pouvait lever la main et donc
dire c'est
ça signalait l'arrêt de course.
Conditions wet, maintenant c'est terminé, on n'arrête plus les courses, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, entre guillemets, presque. Et donc voilà. Donc ça s'applique pour la catégorie Superbike seulement, il faut qu'ils rentrent dans la voie des stands, ils arrêtent devant leur garage, ils éteignent le moteur, descendent leur moto. Alors seuls 3 mécaniciens clairement identifiés avec un brassard officiel sont autorisés à toucher la moto ou à travailler pendant l'arrêt au stand. Et ces 3 mécaniciens ne peuvent recevoir aucune aide extérieure dans la voie des stands, c'est-à-dire le passage d'outils dans le garage, etc. Mais le pilote peut les aider. Ah ça va être marrant, ça. Je voudrais voir quel pilote va les aider. Le pilote peut les aider s'il le souhaite. Alors il y aura un marshal, un commissaire de piste qui surveillera la situation, et il y aura des amendes s'il y a des infractions.
Toi qui as l'habitude d'être sur les circuits, Gilles,
ça va être marrant.
Est-ce qu'il y a vraiment déjà des pilotes qui ont touché la mécanique? je n'en ai jamais vu.
Moi non plus. Alors ça risque d'être drôle, parce que je ne sais pas quel pilote va aider les mécaniciens. Ça risque d'être marrant. En tout cas, pour l'image, il y aura des arrêts au stand, un peu comme en endurance.
Et donc le calendrier Superbike n'est pas encore définitif, mais les dates ne sont pas encore très précises. Surtout,
le Superbike, c'est à peu près déterminé, mais il y aura notamment une course en Inde qui aura lieu le même jour que malheureusement que le salon de Pékincourt.
On va décaler la course en Inde.
Il va falloir que j'écrive à la FIM, ça va pas du tout le jour de Pékincourt, faut pas mettre de course. Et donc c'est pour la petite parenthèse. Par contre en endurance, là c'est les grands inconnus. On était sur 5 courses l'an dernier, on serait sur 4 courses cette année. Des inquiétudes quand même. Peut-être qu'on aura Christophe Guillot tout à l'heure au téléphone en direct de Milan,
au salon de Milan. Donc c'est terminé avec Max.
Grand coup de chapeau.
Peut-être qu'il va revenir.
Un pilote énorme.
Tu sais, les mecs qui se barrent.
Il reste chez Aprilia. À 41 ans, c'est mort. Il reste chez Aprilia. Il sera certainement directeur technique. Il va aider peut-être des jeunes pilotes.
Après le prochain morceau de musique, on va parler de cette fameuse réforme du permis de moto qui entrera en vigueur le 19 janvier prochain.
To yourself right now, you and I.
Voilà, deuxième volet de cette émission, nous allons parler de cette réforme du permis moto qui va entrer en vigueur le 19 janvier prochain. Nous sommes en compagnie de William, de la FDM 59. Bonjour William, de Dominique, donc Dominique et Catherine de la moto-école Dominique à Seclin et puis autres aussi, autres bureaux, je ne sais plus où. Dominique, tu fais passer les permis moto, je voudrais savoir ce qui va changer donc le 19 janvier prochain.
Alors, ce qui va changer...
Si je veux passer mon permis par rapport à actuellement, est-ce que j'ai intérêt à m'inscrire tout de suite, là, avant que la réforme change? Enfin, non?
Non, mais non, c'est trop tard, c'est foutu.
C'est trop tard, c'est foutu. Alors, dis-moi un peu ce qui va changer un petit peu sur le parcours, peut-être sur le code, j'en sais rien.
La première chose qui va changer, qui est importante, c'est l'âge. Jusque maintenant, on avait un âge restrictif, qu'ils appelaient ça, qui était entre 18 et 21 ans. Donc là, l'âge légal pour passer un permis gros cube en A direct, ça sera 24 ans.
Bon, alors, c'est ces fameuses catégories qui vont changer. Donc 50 cm cube, c'est-à-dire 49,9 cm cube. Hein, voilà. Donc ça va s'appeler AM. Auparavant, il fallait passer le
BSR.
Le BSR. Ça n'existe plus, le BSR.
Non. Hein, alors, une BSR, c'est une formation de 5 heures. Et ce permis
et AM. Et c'était pas un permis, le BSR.
C'était pas un permis.
C'est simplement une formation.
C'était qu'une formation.
Et là, ce sera un permis.
Là, ça sera un permis.
D'accord.
Et on ne pourra pas se retirer de points.
Mais on ne pourra pas se faire. Mais on pourra quand même se faire retirer le permis, non?
Non, pas du tout. Il y aura des amendes, ça fonctionnera.
Il y aura des amendes.
Mais voilà, c'est un. Bon, c'est reconnu comme un certificat.
Bizarre, ouais. Et ce sera payant, forcément.
Ah oui, ça va être payant.
Parce que le BSR, c'était aussi payant, tout à
l'heure. C'était aussi payant.
C'est le même tarif.
Alors, le permis AM, ça va être une formation qui va être délivrée en 7 heures, dont 2 heures de théorie obligatoire, avec présence d'un moniteur en salle. Sur des différents types de catégories, les accidents, les assurances. Et après, il y a une formation sur un plateau, comme au permis moto, et une formation de circulation. À la fin de ça, si l'élève est apte, le moniteur lui donnera une attestation, avec laquelle il ira à la préfecture, et là, la préfecture délivre un permis.
Il y a quand même une évaluation de l'élève, quand même.
Ah oui, s'il est pas
bon, auparavant, avec le BSR, il n'y avait pas d'évaluation.
Enfin,
on donnait le BSR comme ça.
Il y en avait une, oui, mais
on le donnait comme ça, même si ce n'était pas positif.
On signalait quand même aux parents que le gamin, ce n'était pas un champion du monde. Mais...
pas comme Max Biaggi.
Exactement.
Bon, voilà, on passe à la deuxième catégorie. Maintenant, ce sera la 1-125. Catégorie 1-1,
125 cm3.
Donc là, il va y avoir donc là, c'est 16 ans.
Hein, là, c'est 16 ans. Et jusque 18 ans. Donc là,
16 ans, 18 ans, avec un permis qui est relativement cher quand même. Alors moi, c'est vrai, c'est mon côté, je me dis que ça, c'est une erreur, hein, parce que je trouve que la 125, c'est l'antichambre là,
ouais, qui normalement doit amener vers les grosses.
C'est comme ça, c'est avec ça qu'on apprend à rouler en moto.
Ouais.
Non?
Ouais, je sais Dominique. Bien, il y a deux fois l'investissement, mais moi je peux rien faire.
Alors, oui, effectivement, donc il coûte très cher en fait ce permis 125.
Mais c'est un intérêt pédagogique quand même. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on avait beaucoup de 125 qui sortaient avec juste 7 heures de formation, qui est largement pas suffisant pour apprendre un deux roues motorisé. Là, l'idée, c'est qu'ils aient une formation comparable au permis moto. Voilà, maintenant, en question de prix, c'est vrai qu'effectivement, en sachant qu'il y aura une déduction.
Deux ans après, tu passes ton permis moto, hein, et là, tu repayes pareil. En fait, tu vas repayer le même prix.
Ça, c'est les petits vice-préfectures qui sont passés derrière.
Tu comprends que les mecs, ils vont pas aller prendre le permis 125.
Hein. Eh,
ça, forcément, ils vont attendre 18 ans. Hein. Voilà.
Déjà là, le marché est en 25, donc, est en baisse. Hein.
Mais donc, par contre, pour les gens qui ont leur permis voiture et qui voudraient avoir une 125 pour aller au travail éventuellement, pour se faciliter
ça
la vie,
ça,
donc là, c'est pareil, c'est toujours une petite formation
de 7 heures.
Hein, et qui au final, après, il n'y a pas de permis, il n'y a pas de test.
Ils ont une petite carte, une attestation, une photo.
Voilà, très bien. Alors, on passe après au permis A2.
Voilà,
alors là, c'est le fameux. Alors, c'est limité à 35 kW.
Oui.
Donc, c'est des machines 50 chevaux. Ça fait c'est des machines de 500, 600 cm3.
Entre 400 et 600 cm3.
Parce qu'il y avait un problème avant avec 34 chevaux. Il n'y avait pas de machine qui était adaptée pour le 34 chevaux.
Donc, il fallait
brider les machines.
Il fallait les
castrer. Voilà, oui, bien. Bravo, William. Voilà. Et ça, ce sera pour les moins de 24 ans.
Voilà. Hein,
moins de 24 ans, on est obligé de rouler avec une 35 kW.
Ouais. Voilà. Jusque l'âge de 24 ans.
Jusque l'âge de 24 ans.
Et qu'est-ce qui se passe à 24 ans?
Et après, bah là, on est illimited. Alors après, donc, plus de 24 ans, alors là, on peut conduire n'importe quoi.
Ah, voilà. Alors, par contre, je vais te couper parce que le gars qui a passé un permis A2.
Oui.
Le jour de ses 24 ans, au lieu d'accéder au A-direct comme maintenant,
oui.
Bah là, il faudra qu'il refasse une formation de 7 heures. Tu vas râler, là.
Ah, il faut qu'on refasse une formation de 7 heures.
Oui. ce qu'on appelle l'accès progressif à la puissance.
Alors, dans ces 7 heures, il y aura.
Et c'est vous, là, les deuxièmes qui avez demandé ça? Vous êtes dans le coup, là, lois, là?
Au niveau des propositions, on a participé activement sur la construction des lois. Le souci, c'est qu'il y a ce qu'on a proposé. Il y a beaucoup de choses qui ont été prises, de très bonnes, on viendra dessus après. Malheureusement, entre le moment où on a proposé et le moment où ça a été adopté, ils nous ont glissé des petits vis. Voilà, ce sujet en fait partie, par exemple.
Parce qu'il ne faudrait pas non plus, si tu veux, faire en sorte que la moto...
devienne accessible, au contraire.
Accessible, parce que tu sais, il y a quelques années, on a voulu casser la moto avec des genres de trucs, avec des assurances, par exemple, tu sais.
Il y a la mute, la fédé, tout ça.
10 000 balles, l'assurance, pour un an, c'était impossible à payer.
Ah oui, de toute façon, on s'est battu contre ça, c'est pas pour mettre ça derrière. Par contre, effectivement, ça, c'est des choses qui sont arrivées sous le tapis.
Ouais, donc il faudra se méfier de ça, quand même.
Et on continue.
Ça, c'est la réforme du permis. Après, il y a le tracé, hein, il va y avoir un radar maintenant.
Voilà, tous les tracés sont complètement différents. Au niveau d'élan, il y aura une maîtrise de l'embrayage, donc l'élève va être chronométré.
Donc maintenant, on peut prendre l'embrayage.
Frein arrière, embrayage.
On pouvait le prendre avant.
Avant, on pouvait le prendre aussi. Oui.
Et maintenant, il faut qu'ils servent de toutes leurs commandes. Et essayer de passer le plus lentement possible, alors qu'avant, le lent n'était pas chronométré. Donc le chronomètre intervient dans le lent maintenant.
D'accord. Alors c'est mieux ou c'est moins bien?
Moi je pense que c'est mieux.
C'est mieux.
C'est profondément
la vie
mieux.
Du professionnel, hein, parce que moi, c'est pas moi qui fais passer les permis.
Non. Moi je pense que franchement à la fin le résultat de moteur ils sont meilleurs.
Tu penses que cette réforme elle est positive?
Ça correspond à la
réalité.
Ouais. Ça correspond à une réalité. Je veux dire aujourd'hui part se met à se débraye et puis se balade
Tu prends toujours un braillage quand tu es en ville forcément.
Et tu mets du frein arrière et tu mets l'embrayage.
Là, ce qu'on faisait avant c'était on réglait les ralentis. Jamais vu un mec en moto s'arrêter avec son ralenti puis circuler en ville. Ça j'ai jamais vu.
Tu mettais les ralentis?
On réglait les ralentis plus bas. Pour qu'ils puissent passer dans des parcours qui n'étaient pas adaptés aux motos.
Toutes les auto-écoles,
tout le monde faisait ça.
Ouais, d'accord.
Alors on pouvait aussi limer les butées. On n'avait pas le droit avant, mais on contrôlait
les butées de braquage. Voilà. Mais pour avoir un braquage un peu plus important.
Voilà. Donc maintenant, on ne touche plus.
Voilà, bon d'accord. Bah écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va se passer un petit morceau de musique. Et puis après, on a encore plein de choses à se dire.
Pas de problème. We'll be right back.
Et juste une petite interruption dans le programme du nouveau permis de conduire pour prendre un invité au téléphone en direct du salon de Milan. Christophe, tu nous entends ?
Tout à fait. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous.
Bonjour Christophe. Alors, t'as vu des superbes choses sur le salon ?
Ah ben, vous savez, quand on est dans des lieux comme ça, la vie est belle. Hein. On voit tout, on voit beaucoup de choses. On voit des nouveautés, des motos, des accessoires, des gens. On est dans un milieu dans lequel on est dans des petits passionnés pour les mêmes choses.
Alors, on voulait juste savoir avec toi, parce qu'on a quelques minutes pour avant de terminer l'émission, si on avait des infos concernant le calendrier de l'endurance. On est à 4 courses, 5 courses. Est-ce que tu as des infos ?
Écoutez, le calendrier de l'endurance, il a lieu. Déjà, il y a un championnat du monde. Et vous savez, moi, j'ai toujours considéré que les 24 heures du Mans et le Vol d'Or, à elles seules, représenteraient déjà un championnat du monde en soi. C'est le Paris-Dakar, le Vendée Globe, le Tour de France vélo. Ce sont des courses annuelles qui sont à elles seules des titres mondiaux. Le fait qu'on ait déjà 4 courses, d'abord, ça, c'est pas une première, ça a déjà été le cas pour un championnat du monde. C'est pas insurmontable du tout en termes de motivation à tous les niveaux. Bien sûr que si on a une cinquième, bah c'est mieux, parce qu'il intéresse à plus de courses que quand on en a raté une. Bah, en endurance, on y attend plus longtemps. Et imaginez-vous dans la position d'un coureur du Dakar, quand il rate sa course, il attend un an. Nous, quand on rate le vol, bah, on attend un an pour aller au Mans. 6 mois, pardon, pour aller au Mans. Et puis, entre-temps, on aura fait du car, on aura fait ses bonnes.
Voilà.
Il y aura plein de choses.
Donc, quelles sont les nouveautés pour 2013 ? On n'a pas encore d'infos qu'on filtrait. Est-ce que toi, tu as un petit scoop à nous transmettre ?
Bah, des scoops, non. Ce qui est bien quand même dans une période difficile sur le plan économique, bah, que tous les championnats du monde aient lieu en endurance, en grand prix, en superbike. Donc notre passion pourra s'assouvir. Les champions sont là, les marques sont là. Bon, bien sûr qu'il y a des règlements, on attend beaucoup de choses. En Grand Prix, on attend des règles du jeu, elles vont changer dès 2013. 2014, il y aura des changements encore plus importants. En Superbike, c'est pareil. Il y a des changements déjà dès 2013, avec le fait qu'il n'y ait qu'une seule moto, mais surtout le fait qu'on soit obligé de rentrer au centre pour changer les roues.
D'accord.
Si jamais la météo n'est pas clémente et qu'on doit changer de pneus.
Et Christophe,
les courses sont à la vie intéressantes.
Christophe, je te remercie beaucoup. La liaison est extrêmement mauvaise, ça grésille de partout. Donc on va te laisser. Je te remercie de ton intervention dans l'émission. À bientôt.
À bientôt. À bientôt à tous.
Merci.
Voilà, donc on va reprendre avec notre invité Dominique qui fait passer les permis. C'est ton travail, hein, tous les jours. T'es dehors là, en train de qui fasse du soleil, qui pleuve.
Comment ça caille ?
Est-ce qu'il fait froid, hein ? Je me doute un petit peu. Donc on va dans ce fameux permis donc qui va avoir lieu, enfin qui va rentrer en vigueur le 19 janvier. On va avoir droit à l'ABS.
Oui, on aura le droit à des machines avec ABS.
Oui.
Ça, c'est pour préparer.
Est-ce que vraiment c'est bien ça ? Parce que bon, donc finalement, après, les motards ne feront plus attention.
On n'aura plus de motards qui sachent freiner.
Bah, exactement.
Exactement. Voilà.
Bah oui. Alors, suppose que tu changes de machine, tu prends une machine des années précédentes, par exemple, ou une machine qui n'a pas d'ABS. Ça va risquer de créer des problèmes, ça, non ?
Bah, c'est pour ça qu'on a gardé des machines sans ABS. Comme ça, on pourra leur montrer les deux.
Moi, je suis pas trop. Hein, William ?
Bah, le problème, c'est que l'ABS.
Je suis pas trop d'accord là-dessus, quand même. Hein.
Bah, le problème, c'est que c'est un progrès. Le souci, c'est qu'on sent déjà qu'ils vont nous.
On forme sans ABS, et puis éventuellement, après, les gens achètent une machine avec ABS, et puis alors là, bon, bah, on sait qu'ils sont vraiment
c'est
au top.
Maintenant, on peut travailler sur les deux, sachant qu'effectivement, de plus en plus de motos vont l'avoir, et qu'un ABS, ça réagit quand même d'une façon particulière. Et c'est quand même mieux de l'avoir appréhendé. Genre, ça rebondit alors qu'on pense s'arrêter et que ça s'arrête plus loin, il y a de quoi se faire 2-3 frayeurs. Mais voilà, il va falloir travailler sur les deux, et effectivement, comme dit Dom, c'est pas une question de faire l'un ou l'autre, c'est de faire les deux.
Et donc, Moto-École Dominique, c'est la seule moto-école qui est agréée à FDM 59. Alors dis-nous pourquoi, ça donne quoi de plus d'être
alors,
agréé à FDM.
Alors la FDM, si vous voulez, c'est un organe que la FFMC, la Fédération des motards en colère, a créé il y a 20 ans, dans l'idée de travailler sur la formation du motard, et notamment la formation post-permis, d'une part, faire des stages post-permis de perfectionnement à la conduite, et d'une autre part, de faire en sorte de créer un réseau de professionnels qualifiés qui ont une vraie vocation pour leur métier, c'est-à-dire non pas des permis qui passent des permis pour faire de l'argent, pour faire du fric, comme beaucoup de moto-écoles, faut pas avoir honte de le dire. Là, la différence, c'est qu'on a des auto-écoles, comme chez les Dominique Azur, qui va nous permettre de vraiment former du motard pour la route et non pas pour un permis. Donc ça comprend un ensemble de techniques qu'on a travaillé depuis longtemps avec une équipe pédagogique au sein de la FDM, et on travaille une équipe de professionnels, donc l'auto-école, et une équipe de bénévoles qui les accompagne dans les stages perf et tout au long des différentes formations ou actions qu'ils peuvent faire.
Très bien, on revient un petit peu sur ce passage permis, parce qu'il y a toujours cette partie technique, enfin route, donc il y a le plateau, ce qu'on appelle ça le plateau, hein, c'est
ouais,
ça
l'épreuve hors circulation.
Moi j'ai passé mon permis en 1972, alors tu sais, pas plateau.
Donc ce qu'on appelle hors circulation, oui. Et on a l'épreuve en circulation.
Donc est-ce qu'il y a des changements là?
Ça sera à peu près équivalent. Ce qu'ils vont leur demander, c'est de s'arrêter long d'un trottoir et de redémarrer, voir s'ils ont fait les contrôles de sécurité, mais ça n'a pas changé grand-chose.
Est-ce que pour les...
Et la conduite autonome aussi. Mais ça, on le faisait déjà avant.
D'accord.
Conduire autonome, on leur donne des directions, des panneaux, mais ça, tout le monde le fait déjà. Donc,
à mon avis, pour les gens qui font passer les permis, est-ce que ça va obliger de racheter des machines, de nouvelles machines, d'investir?
Alors, jusque 2014, on n'est pas trop embêté, mais après, on va être obligé d'avoir des machines différentes suivant les catégories de permis.
Ah oui, parce que là, tu pouvais très bien faire passer, par exemple, la 125 sur...
Non, la 125, rester sur la 125.
Tu seras obligé de faire passer un 600, un 35 kW, voilà. Un A2.
Sur une 35 kW.
Voilà, on ne pourra pas faire autrement.
Ouais. Donc là, ils nous ont laissé un an pour s'adapter.
Est-ce que ça va augmenter? Parce que le prix du permis de...
Ah, pour l'instant,
est-ce que le prix va...
Pour l'instant,
sera différent?
On ne va pas essayer de toucher au tarif, mais si on voit que la formation est plus longue, il faudra augmenter, ça sera logique.
Bon, William...
Non, mais j'allais dire, en même temps, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut avec une formation moto? Parce que c'est vrai que l'argent est une question en soi, mais est-ce que le but, c'est d'avoir une formation de qualité ou de payer un permis au rabais et de se planter au prochain virage qui va suivre derrière son permis? Voilà, la question est entière et il faut qu'on fasse un équilibre entre les deux, entre une formation de qualité et un tarif qui reste accessible à tous. Donc ça va être l'école de jongler.
Donc, comment ça fait qu'il n'y avait pas d'AFDM ici, dans le Nord?
Oula,
c'est... Pourtant, le Nord, c'est... pas une région de motards.
Ah, oui.
C'est ici qu'il y en a le plus.
Bah écoutez, parce que simplement, on va dire que...
Si.
Des anciens...
Il y a Gilles Fény qui me dit non, mais...
On n'en demandera pas, il y a beaucoup de motards dans Nord-Pas-de-Calais, rien qu'à voir les chiffres, on le sait. Hein. Le problème, c'est que pendant longtemps, la FDM a été considérée comme compliquée, pour une raison assez simple, c'est qu'elle demande en permanence aux motards de se remettre en question, sur sa propre conduite, sur sa propre représentation de la moto et son partage de la route. Et c'est pas évident, il y a beaucoup de militants qui ont des grandes convictions, qui ont des grandes idées, mais qui malheureusement ne se remettent pas en cause. Et donc ça a été très dur. Et le deuxième variable qui a été compliqué, c'est qu'il a fallu travailler avec des moto-écoles. Et ça, c'est une grande complexité, parce que ça demande à des bénévoles, à des animateurs, à toutes sortes de personnes qu'on peut retrouver à la FDM, de travailler, ou à la FEDE, à travailler avec des professionnels. Et donc ça demande une autre forme d'investissement. Et ça n'a pas été évident.
Et toi, Dominique, ça va changer quoi d'être faire partie maintenant d'une...
Ça va changer.
Une AFDM, donc.
Ça a changé tout pour moi déjà. Quand on a commencé les stages, on a fait ça en mars. Je suis arrivé, 30 ans de moto, je dis qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre, le monsieur?
Oui, bah justement.
Arrive t'as une auréole comme ça,
le sol, on me pose la question.
On
l'a
mis à la poubelle, quoi.
Ah bon?
Ils nous ont complètement appris à conduire avec des techniques complètement différentes.
Ah bon, à ce point-là. Je suis vraiment curieux de voir ça. Hein.
On n'a pas l'air
bon,
comme ça.
Bah non, vous n'avez pas l'air. Bon, voilà, l'émission se termine. Merci d'être venu aujourd'hui dimanche. Hein, on verra un petit peu au mois de janvier un peu ce que ça va donner ce nouveau permis.
Bah, viens faire un stage pour nous.
Je vais aller faire un stage effectivement. Ça sera gratuit. Hein, je vous fais de gratuit. Non, vous faites gratuit. Bon Gilles, au revoir, au mois prochain. Hein, et puis voilà, mission se termine et bien, on vous donne rendez-vous dimanche prochain 11h sur Campus Lille 106,6. Au revoir, passez un bon dimanche.
Au revoir à tout le monde.